Radio Okapi. Grande interview.
Célébration mardi dernier de la 60e année d'indépendance de la RDC. Quel bilan faire aujourd'hui des 60 ans d'indépendance de ce pays au cœur de l'Afrique? Quel regard porter sur l'avenir du pays et que faire pour assurer son développement? Grande interview reçoit dans ce numéro Maître José Kadimantumba, initiateur de la campagne nationale dénommée Esprit Public pour un nouveau départ de la RDC 60 ans après son indépendance. Produite avec le concours de Kelly Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans Grande Interview. Nous recevons ce jour Maître José Kadima, initiateur de la campagne Esprit Public pour un nouveau départ de la RDC 60 ans après l'indépendance. Avec lui, nous parlons de la RDC aujourd'hui et demain, après 60 ans d'indépendance, enjeux futurs et quelle vision. Maître José Kadima, bonjour.
Bonjour cher Michel.
60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, quel bilan faites-vous de la gestion congolaise de cet héritage de l'impérialisme occidental?
Le bilan que tout Congolais doit faire en cette période d'anniversaire de 60 ans d'indépendance est un bilan chaotique. Nous le disons avec des termes forts. L'évaluation que nous faisons à notre propre niveau dégage que nous sommes aujourd'hui une république éparpillée parce que nos services publics ont été individualisés. Quand nous regardons la situation des marchés publics, ils sont pratiquement dissimulés. L'administration publique elle-même, elle est dédaignée. Les travaux publics sont surfacturés. Il y a des détournements des deniers publics. Les bâtiments publics sont abandonnés. Les seuls que nous avons eus en héritage de nos colons sont pratiquement à l'état d'abandon. Les mandataires publics sont politisés. Le trésor public saigné à blanc, les espaces publics, les seuls que nous avons eus, sont pratiquement spoliés, les biens publics vandalisés, les politiques publiques sont ignorées, et si vous voulez, notre opinion publique n'existe pratiquement pas parce qu'elle est corrompue. Les débats publics, c'est des débats des personnes. Les libertés publiques sont confisquées et les mandats publics sont monnayés. Voilà l'environnement qui peut être peint des 60 ans d'indépendance, mais ces 60 ans au cours desquels nous avons assisté à la montée de la consécration des hommes par rapport aux principes impersonnels. Les institutions politiques dans notre pays ont connu une telle déstabilisation que sur les 60 ans de notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu la chance de construire dans la régularité des institutions qui puissent aujourd'hui nous permettre d'être logés à la meilleure enseigne comme les autres États à travers le monde ou à travers l'Afrique. Quand vous regardez notre tissu économique aujourd'hui, il est déplorable. 60 ans après, nous ne savons rien produire chez nous. Notre économie est extravertie. Et cet anniversaire se passe dans des conditions particulières qui sont celles de la pandémie Covid-19. Vous avez vu comment notre pays a démontré pratiquement les insuffisances pratiquement sur tous les domaines. Voilà, de manière générale, comme je le dis avec des mots forts, tout Congolais, soucieux de grandeur pour ce pays, ne peut que conclure à une fatalité, mais qui n'est pas reluisante pour les 60 années que nous avons passées depuis l'indépendance.
Vous pensez que la gestion coloniale était de loin meilleure que la gestion congolaise depuis 60 ans d'indépendance?
Mais c'est clair. Les historiens pourront faire leurs analyses à leur niveau. Nous sommes factuels. Nous regardons les faits. Le colon nous a quand même légué un pays. avec une administration, avec des bâtiments, avec des routes. Aujourd'hui, 60 ans après, quand nous regardons la qualité de l'homme qu'il y avait à cette époque et la déchéance humaine que nous avons eue plusieurs années, nous comprenons carrément que les structures, même les agents de socialisation, tout ce que l'homme blanc a laissé dans ce pays n'existe pratiquement pas. C'est-à-dire que il nous a été légué une structure, un pays que nous n'avons pas pu prendre en charge en tant que Congolais sur notre propre sol. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous puissions remettre la responsabilité sur autrui. La responsabilité est la nôtre et sur les 60 ans, nous avons failli à notre responsabilité primaire qui est celle de garantir à notre postérité la grandeur et la dignité. Donc, nous avons montré une certaine incapacité sur les 60 années de souffrance, mais où toutes les stations ont été des stations douloureuses. Il faudrait maintenant, aujourd'hui, à 60 ans d'anniversaire, que nous puissions penser autrement pour l'avenir.
Puisque vous parlez des faits, restons dans les faits, faites-nous un parallélisme entre ce que le colonisateur a investi en RDC dans le secteur de l'éducation, par exemple, que la gestion congolaise n'a pas pu faire durant les dernières 60 années.
Mais je vous donne l'exemple de l'université Louvanium. Après 60 ans, dites-moi où est-ce que vous avez vu un tel investissement dans ce pays. Nous avons eu autant de gouvernants dans ce pays. Je ne sais pas lequel a investi dans une infrastructure comme celle-là. Je peux en citer autant. L'université de Lubumbashi, à Kisangani, un peu partout. Vous vous rendez compte simplement que les investissements qui ont suivi en termes d'éducation dans notre pays n'ont pas égalé ceux qui avaient été mis en place par les colons à l'époque. La qualité de l'enseignement qu'il y a eu dans ce pays, on a eu des premiers Congolais, mais qui n'étaient pas très éduqués, qui ont pu faire face à l'homme blanc, aussi par la qualité des échanges et la gestion de ce pays au début. Aujourd'hui, nous avons les cadres sur chaque avenue, mais quelle est la gestion que nous faisons de notre pays 60 ans après, avec les médecins partout, alors que nous n'avons pas les soins de qualité. Nous avons les magistrats et les juristes partout, nous n'avons pas la justice de qualité. Nous avons des ingénieurs partout, nous n'avons pas les routes qui tiennent. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays de contraste. Autant que nous avons accumulé les années, on devrait investir dans la sagesse. C'est comme si toutes les années que nous accumulons connaissent une recrudescence dans le sens de l'histoire qui était ancienne, mais dont les conséquences continuent à être vécues chaque jour sur notre sol.
Et à votre avis, qu'est-ce qui a fait que la gestion congolaise ne soit pas à la hauteur du défi congolais ?
L'homme congolais, il est foncièrement mauvais. Et j'ai écrit et je peux revenir dessus. Je rejoins les présocratiques quand ils parlent de l'homme comme étant la mesure de toutes choses et la fin des sociétés. Protagoras le disait ainsi, l'homme congolais est mauvais. Il est mauvais parce qu'il n'est pas structuré pour être à la hauteur des enjeux de ce pays. Ce pays est important et les enjeux autour de la RDC sont tellement grands que l'homme n'est pas en train de dans ce grand rêve. Quand vous lisez les paroles de notre hymne, c'est comme si ces paroles sont récitées mais sans être vécues. L'homme congolais n'est pas arrivé à la dimension pour comprendre les enjeux réels de ce pays. Il faudrait, avant de s'envoler, essayer de se mettre debout, courir et voilà. Donc si nous ne prenons pas les dispositions pour l'avenir de notre pays, nous considérons que toute l'entreprise organisée autour des hommes ne peut pas donner les résultats escomptés, parce que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, l'investissement a été fait sur des hommes. On ne peut pas investir dans les hommes parce qu'ils sont plus importants que les principes. Il faut investir sur les principes. Ce sont des principes qui construisent une société, ce qu'on appelle ailleurs la superstructure. On ne peut pas investir dans les effets matériels. Il faut investir dans les principes qui sont immatériels. Ce sont ces principes qui construisent les grandes nations.
Et à qui pourrez-vous attribuer la responsabilité de la déliquescence congolaise?
Mais c'est clair, j'ai parlé de cet homme, mais il faut peut-être les disséquer. Les gouvernants depuis 60 jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réalisé la mission qui est confiée à des élites. La mission qui est confiée aux lumières dans une nation. Toute nation est éclairée par ses lumières. Et ces lumières, ce sont les professeurs d'université, ce sont les cadres, l'élite de manière générale devrait éclairer la société. Mais chez nous, nous avons comme l'impression que le diplôme est une sorte d'attribution vidée de son contenu. Chaque fois que les gens grandissent en diplôme, c'est-à-dire qu'ils sont vidés du sens républicain, du sens patriotique pour servir le pays. Aujourd'hui, autour de ce que nous faisons, ce que nous appelons esprit public, c'est démontrer effectivement que les diplômes ont failli devant la situation attendue de chaque Congolais pour l'avancée de notre pays.
Vous êtes à l'écoute de grandes interviews sur Radio Okapi. Nous recevons dans ce numéro Maître José Kadima. Il est initiateur de la campagne Esprit Public, une campagne lancée dans le cadre des festivités des 60 ans d'indépendance de la RDC. Maître José Kadima, vous avez lancé la campagne de sensibilisation dénommée Esprit Public. Quel lien faites-vous entre cette campagne et la célébration des 60 ans d'indépendance de la RDC ?
Dans chaque marche historique d'un peuple, il y a des stations, il y a des bornes. Il faut s'arrêter un moment pour évaluer. Nous, nous avons estimé que 60 ans, c'est quand même beaucoup. C'est un âge de sagesse, c'est un âge de remise en question. Nous ne pouvons pas passer cet anniversaire au contenu du Covid sans rien dire, sans rien faire. C'est ainsi que nous avons estimé à notre niveau de faire l'évaluation entre les considérations liées à l'esprit privé. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, seul l'esprit privé a caractérisé l'homme congolais, le peuple congolais. L'esprit privé, c'est cette consécration du tribalisme, cette consécration du clanisme, des idéaux personnalisés. Il fallait qu'en ce moment où nous arrivons à 60 ans, que le Congolais puisse passer à autre chose. Nous voudrions que dans ce pays, dans les années à venir, après 60 ans d'anniversaire, que nous puissions inculquer à la masse populaire l'esprit public. L'esprit public, nous l'invitons dans le débat comme étant l'esprit républicain. C'est l'esprit du bien collectif, l'esprit patriotique, l'esprit qui nous rappelle notre nationalité, notre patriotisme et notre citoyenneté. Cet esprit est par opposition à l'esprit privé un engagement citoyen pour chaque Congolais. Celui-ci relève des devoirs citoyens qui sont garantis par notre Constitution au chapitre 4. Vous prenez les articles 62 jusqu'à 67. On rappelle à chaque Congolais de pouvoir aimer son pays, de pouvoir protéger son pays, de remplir de manière loyale ses obligations. Dans ce pays, nous n'avons que deux droits. Chaque Congolais voudrait voir ses droits être protégés, être respectés. Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, qu'est-ce que nous, de par notre nationalité, nous avons offert à notre pays depuis 60? Il faudrait que chaque Congolais, quand il se réveille le matin, qu'il sache qu'il a une obligation par rapport à la terre de ses ancêtres. Il faut protéger ce pays. Aujourd'hui, nous parlons des 60 ans. Qu'en est-il du centenaire de notre indépendance? Est-ce que ce pays sera toujours uni ou il sera balkanisé autour de toutes les querelles et tout ce que nous entendons à l'est du pays? C'est maintenant qu'il faut faire des études prospectives. C'est maintenant qu'il faut se lancer dans l'avenir. J'aime bien Moïla Chiemé parce que je le lis beaucoup. Il est dit dans un des ouvrages qu'un pays ne se gère pas au quotidien. Un pays doit se projeter. Qu'est-ce que nous devenons dans les années à venir? Les considérations géopolitiques autour de notre pays sont négligées à plus d'un titre. Il faudrait que les Congolais comprennent que l'enjeu de la conférence de Berlin n'a jamais été évacué de manière totale. Cet enjeu est toujours présent. Le Congo est considéré par les autres comme un supermarché dans lequel on vient, on puise, on se retire. Il faut que chaque Congolais, dès les bas âges, à l'école primaire, à l'université et partout, le cours d'éducation à la citoyenneté, le cours d'éducation civique soit rappelé, que ce cours puisse revêtir la plus grande pondération parce que notre nationalité est liée à cet amour. Je regarde chaque mois de novembre comment les cybercafés sont pris d'assaut et les Congolais veulent partir. Nous sommes étrangers sur notre sol. Nous sommes mercenaires sur notre sol. À la première occasion, nous voyons devant les ambassades comment les gens font la queue pour pouvoir partir. Ils dorment dans les églises pour pouvoir partir. Mais ce pays est une manne rare à travers le monde. Ce pays regorge de tout. Il faudrait qu'à l'occasion de cette indépendance, 60 ans, que les Congolais comprennent qu'il n'y a pas mieux que le Congo ailleurs. Il faut que la jeunesse m'entende, il faut que les jeunes, partout où ils se trouvent, comprennent qu'il faut se battre pour le devenir de ce pays. Les politiques ne peuvent pas prendre en otage tout un pays. Plus de 80 millions d'habitants, ceux qui gèrent le pays, ils sont moins de 500 000. Ils ne peuvent pas considérer que ce pays a un devenir coincé ou gardé en otage par les inclinations partisanes au niveau de la gouvernance politique.
Une grande motivation justement pour initier une telle campagne, mais quels sont les moyens en votre possession pour que enfin vos idées ne soient pas un chapelet de bonnes intentions?
Nous n'avons aucune prétention. Je suis congolais, je suis interpellé par les devoirs citoyens pour pouvoir me battre pour mon pays. C'est pourquoi, avec d'autres compatriotes à travers la République, nous avons communié autour du contenu esprit public. Ces contenus, nous les partageons par tous les moyens de médias, par la vulgarisation. Aujourd'hui, nous sommes coincés par les considérations liées à la pandémie, mais nous comptons faire les déplacements de nos provinces, faire le terrain pour expliquer à l'ensemble de notre peuple que la borne de 60 ans, elle est importante pour voir l'avenir autrement. C'est ici le lieu de rappeler au pouvoir public que l'obligation d'éducation citoyenne et civique, c'est une obligation de l'État. Nous avons un ministère de la nouvelle citoyenneté. On voudrait voir ce ministère dans ce genre de débat. Le chef de l'État a mis en place une structure de changement de mentalité. C'est leur travail. Nous avons entendu parler de Kinbopeto. Tous ces concepts réunis disent la même chose avec esprit public. Mais il faut une démarche pour que le Congolais puisse s'approprier. Chaque fois qu'il y a une marche pacifique, on s'attend attaque au bien public. C'est un esprit rétrograde, il faut se battre contre ça. J'entends chaque jour des gens, des clivages entre provinces, entre ethnies et tout ça. C'est de l'esprit privé. Il faudrait que l'esprit public puisse faire en sorte que le pays soit notre idéal commun. Nous ne pouvons pas appartenir à des castes gardées pour pouvoir combattre l'idéal de notre vie commune. Le vouloir vivre collectif, c'est notre dimension citoyenne à nous accepter malgré nos différences. C'est ainsi que, mobilisés derrière cet idéal d'esprit public, nous, avec beaucoup d'autres structures à travers la République, nous disons que cette campagne n'est pas une campagne ponctuelle liée au 30 juin, c'est une campagne de vie. Il faut que cela soit enseigné aux enfants à l'école primaire, soit enseigné dans nos universités, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Dans d'autres pays, il y a les services militaires obligatoires. Nous sommes en train de nous pouvoir nous battre pour susciter les débats autour du service militaire obligatoire, c'est l'article 63 de notre Constitution. Parce qu'il est important, au-delà du diplôme, qu'on se rassure que le demandeur d'emploi a un esprit patriotique. Parce que, avec tous les détournements des déniers que nous avons connus dans ce pays, que nous continuons à connaître dans ce pays, il faut se poser la question, est-ce qu'il est important de donner du travail à quelqu'un qui n'a aucune expression d'esprit public? Les diplômes ont failli. Tous les Congolais ont un diplôme. Mais pourquoi le pays continue à sombrer? C'est l'esprit privé. Parce qu'on veut travailler pour sa famille, mais le Congo ne sort pas du gouffre. Il est important qu'aujourd'hui, l'esprit public soit le gage pour notre stabilité, aussi bien sur le plan de la gouvernance politique, mais également la gouvernance économique.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro Maître José Kadimantumba. Avec lui, nous parlons de la RDC aujourd'hui et demain, après 60 ans d'indépendance. Et cela s'inscrit dans le cadre de la campagne lancée, dénommée Esprit Public, sous son initiative. Alors, Maître José Kadima, quelle lecture faites-vous de la situation socio-politico-économique qui prévaut actuellement en RDC?
La situation politique et même économique de notre pays en cette période, c'est une situation lamentable. Parce que je veux revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on se rend compte que l'esprit privé n'a pas fini de faire son chemin. Et dans cet esprit privé, nous voyons les initiatives être prises pour protéger les individus, nous voyons les déniers être détournés pour enrichir les individus, nous voyons les pays être sacrifiés dans des opérations mais qui font des beaux jours pour les individus. Nous voyons tous les calculs être concoctés en fonction de 2023, mais pour les individus. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il tire de tout cela? Donc voilà l'environnement dans lequel nous vivons, où l'esprit public est mis de côté à l'avantage d'un esprit privé. Mais c'est ce que nous critiquons depuis 1960. Cela est en train de se faire, mais aujourd'hui, avec une grande acuité, simplement parce que ceux qui nous gèrent sont dans une entreprise privée, et dans cette entreprise, seuls les intérêts particuliers priment sur l'intérêt général. Voilà le tableau que je peins de la structuration de la vie politique actuelle.
Quand vous parlez des initiatives privées au détriment du bien public, vous pensez aux trois propositions de loi Mina Kusakata?
Non, mais il est clair, l'opinion nationale, à tous les niveaux, vous avez suivi toutes les sensibilités politiques. Ceux qui sont élus ont le mandat. Ils sont mandatés par le peuple. Et à ce titre, il faudrait à un certain moment écouter la sensibilité populaire sur des questions précises. Si maintenant, après, on se rend compte qu'il y a d'agacement du peuple sur une initiative et que les auteurs de cette initiative ne veulent pas s'en départir, on comprend précisément que nous sommes dans une organisation privée qui n'a rien à voir avec l'esprit public.
De plus en plus, on constate des désaccords assez persistants entre différentes familles politiques qui gouvernent ce pays. Est-ce que cela vous fait craindre que nous retombions dans la situation de la crise institutionnelle de 1960?
Mais nous l'avons dit, le décor actuel nous rappelle pratiquement les décors que nous avons eus en 1960, où à la prise du pouvoir, les deux leaders, notamment Lumumba et Kasavubu, se trouvent dans une configuration de coalition, si je peux le dire en d'autres termes. 60 ans après, nous avons pratiquement la même configuration. Il y a beaucoup de peur que nous puissions retomber dans cette situation, mais ça sera vraiment une situation lamentable que de revenir 60 ans après sur les traces de l'instabilité qui a caractérisé toute notre marche politique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est de l'intérêt général pour les partis impliqués directement au travers cette configuration de comprendre que le pays ne peut pas retomber 60 ans en arrière à cause de l'esprit privé et de l'appétit pour certains de pouvoir se constituer ce que j'appelle des bunkers ou des refuges. Il faudrait aujourd'hui que l'intérêt du peuple soit le seul idéal pour l'activité politique. On fait la politique pourquoi ? La politique est faite pour améliorer les conditions sociales de la population dans une assise d'intérêt collectif. On ne peut pas faire la politique pour se protéger soi-même ou faire la politique pour un idéal partisan. Et c'est toute cette configuration qui construit le doute quotidien du peuple à faire confiance à notre classe politique. Et il est très important qu'aujourd'hui, à travers notre campagne de esprit public, que le peuple comprenne que le seul moyen par lequel il faut se tirer de cette configuration orientée, c'est d'être éduqué, de se préparer en sorte que notre système social, dans les années à venir, puisse nous donner les dirigeants de qualité. Aujourd'hui, on peut se plaindre de tout, mais les dirigeants proviennent d'un système social qui est déjà lui-même corrompu. Quels sont les modèles que nous avons aujourd'hui? Nos modèles, c'est des musiciens. Nos modèles, c'est des acteurs de théâtre. C'est tout ce que nous avons comme modèle. Aujourd'hui, les Congolais, ils ne peuvent pas se projeter dans un avenir de grandeur parce que nous n'avons pas des personnes qui acceptent de mourir pour ce pays. Il faut les compter depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas 10 Congolais qui ont accepté de pouvoir verser leur sang pour ce pays, parce que il s'agit de 60 ans de notre indépendance. C'est ici l'occasion de pouvoir encore citer les noms de Patrice Emery Lumumba. Il faut citer le nom de Joseph Kasavubu, mais c'est quand même des personnalités importantes de notre pays. On ne pourra jamais se lasser de citer leurs noms, parce que dans leur jeunesse, ils ont pu quand même accepter des grandes charges pour ce pays. Ce qui advient dans la suite, dans l'histoire de notre pays, c'est simplement les appétits des mesurés, des humains qui construisent des principes individuels au détriment des principes impersonnels.
Et comment voyez-vous l'avenir de ce pays aujourd'hui en plein état d'urgence face à la pandémie à coronavirus ?
Non, mais nous sommes très inquiets, il faut le dire. C'est une inquiétude grandissante. Nous étions à deux cas. Nous avons vu comment est-ce que la question a été gérée. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 cas. C'est maintenant que le déconfinement est décidé. Tout ça inquiète. Il faudrait quand même qu'à un certain moment, le Congolais se prenne en charge, qu'il soit conséquent de tous les agissements. Aujourd'hui, la pandémie met à nu les insuffisances de notre État. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan social, il y a des insuffisances. 60 ans après, le pays ne peut pas être aussi démuni. Démunis sur tous les plans. Je ne sais pas ce que nous pouvons dire en des termes simples, mais nous sommes dans une situation qui interpelle et qui inquiète pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi des Congolais soucieux de grandeur et de dignité qui rêvent pour ce pays doivent comprendre qu'aujourd'hui, le seul moyen par lequel il faut se tirer de cette situation, c'est de construire les bases pour l'avenir. Et ces jalons, il faut les jeter à travers l'éducation de base. Si nous, aujourd'hui, en tant que Congolais, nous avons échoué, si notre génération a échoué, nous devons assumer. Mais nous ne pouvons pas considérer que le pays s'arrête avec nous. Le pays doit continuer avec les plus jeunes. Mettons les bases de telle sorte que dans 40 ans, dans 30 ans, les jeunes qui viennent après nous puissent construire un pays dans lequel il ferait mieux vivre que celui-ci. Mais considérer que tout peut s'arranger au cours de 10 ans, 20 ans, ce serait... Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Les enjeux sont énormes et les structures pour gérer tous ces enjeux, apparemment, on les calcule en termes matériels, mais moi je vois ces structures en termes immatériels. Parce que l'homme doit être éduqué. Aujourd'hui, les critères de puissance ne sont pas simplement ceux de la hard power, mais c'est également des critères de la soft power. Vous allez lire Keonenien qui va vous dire cela, c'est parmi les grands aux États-Unis. Aujourd'hui...
La soft power et la hard power, c'est quoi?
La soft power, c'est la capacité pour un État de pouvoir influencer les autres sans la force. C'est ce qu'on appelle la puissance douce. Ça peut passer par l'éducation, mais ça peut passer par tous les autres moyens qui ne sont pas ceux de la hard power. La hard power, c'est la force militaire. C'est la contrainte militaire. Donc, un pays qui se veut grand, il doit investir dans la soft power qui peut influencer les autres à aller de l'avant sans forcément utiliser les forces armées. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les considérations de la sécurité collective, il est les questions d'armement, les questions de guerre connaissent un recul, mais les pays doivent continuer à influencer les autres, mais par des moyens qui sont contraires à ceux indiqués dans les considérations géopolitiques d'antan.
Alors, la toute dernière question, quelles devraient être, à votre avis, les priorités d'action pour toute une nation afin de faire de la RDC une véritable puissance au cœur de l'Afrique?
Pour nous, la priorité, c'est l'homme. Je veux citer Nietzsche. Il dit, avant de s'envoler, il faut se mettre debout. Et ici, les paroles de notre hymne national sont assez éloquentes. Debout, Congolais. Le Congolais doit être debout. Et pour être debout, un homme debout, c'est un homme qui a de l'assurance. Ici, l'assurance ne doit pas être une assurance armée, c'est une assurance de l'éducation. L'éducation civique, l'éducation citoyenne. Il faut inculquer à chaque Congolais la connaissance de ce que représente son pays. Le Congolais doit connaître son pays, le Congolais doit aimer son pays et être en mesure de mourir pour son pays. Il faut ôter aux Congolais les caprices ou tout ce que vous voulez en termes de possibilité de pouvoir quitter le pays. Donc, les artifices qu'il y a autour du Congolais pour aller vivre ailleurs, tout ça, on peut lui ôter ça en faisant beau vivre notre pays ici. Et je dirais en des termes beaucoup plus simples, c'est que un Congolais éduqué est une force pour le devenir de notre pays. Je crois qu'investir dans l'homme, je vais reprendre les paroles de Feu Zaïd Ngoma, il aimait bien dire ça, il faut investir dans l'homme. Et cet investissement dans l'homme est le meilleur investissement pour pouvoir envisager la grandeur pour notre pays.
Maître José Kadima Ntumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie et surtout de m'avoir invité.
Merci. Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été présentée avec le concours de Kelin Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a présenté. Rendez-vous pour un autre numéro samedi prochain, 10h05. Merci de rester fidèle à la fréquence de la paix. Au revoir.